C'est 23.
Un balado, c'est 23. Produit par le 98.5.
Ça tient la route. Le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charest.
Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Ça tient la route avec mon ami Alain Mécana. Salut Alain.
Bonjour Benoît.
Alors encore une fois, beaucoup de sujets cette semaine. On va parler... Tiens, ton essai routier, on va parler de quoi cette semaine?
J'ai essayé, parce que tout le monde m'en parlait, le Volvo XC90 Recharge qui se... je pense que ça se traduit rechargé. Je pense qu'il l'appelle rechargé.
Ah,
en
d'accord.
Français.
En fait, c'est le recharge.
C'est le recharge. Si tu lis en français. Parce qu'il se recharge, vous l'avez compris. Voilà. Donc, on va en parler tout à l'heure.
D'accord. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller essayer la semaine dernière le Nissan Rogue 2021, nouveau modèle, qu'on a fort amélioré. Je vais vous en parler plus en détail. Je vais peut-être avoir le temps de glisser un petit mot parce qu'on est allé faire une journée de piste cette semaine du côté de Massport, le Canadian Tire Motorsport Park.
Une journée plate.
En fait, avec 2 degrés, un peu de pluie.
Ah oui.
C'était pas la journée de piste idéale, on s'entend. Mais on a essayé série 4 440 sur un autocross, un circuit de cône. On a essayé un X7 Alpina sur un circuit.
Ah oui?
Ouais, c'est 2,5 tonnes sur un circuit, c'est assez impressionnant. On a essayé la Mini GP aussi, et on a essayé la Countryman, John Cooper Works, aussi sur un circuit, et la Mini électrique. Alors, donc, on a fait le tour de pas mal de modèles, et je vais essayer de vous en glisser un petit mot tantôt. On va recevoir aussi le président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Robert Poetti, qui va nous parler, parce que là, bon, on allonge jusqu'au 23 novembre la période de COVID. On est déjà littéralement dans un semi-confinement, entendons-nous, là, c'est sûr que les activités sont pas au plus fort. On a eu un regain au niveau des ventes automobiles parce qu'on avait été confiné 3 mois. Il va arriver quoi si on regarde dans un horizon de 6 mois à 1 an? Bon, on va en parler avec Robert Poetti.
Il y a plein de questions.
Absolument, j'en ai pas mal, toi aussi. Alors, on va essayer de vider le sujet. Puis, évidemment, on a nos actualités de la semaine pour entamer l'émission. T'as quoi au menu cette semaine, toi?
Ben, écoute... Parlant de Volvo, c'est un beau hasard. Volvo Canada a annoncé aujourd'hui, plus tôt cette semaine, en fait, le prix de son XC40 rechargé, lui aussi. Et, donc, le Recharge, la version électrique de son petit VUS. Petit VUS qui, en passant, devrait être assez attrayant.
En tout cas, j'en ai beaucoup de commentaires à date, les gens, parce que, c'est un beau modèle,
exact,
il est beau.
Exact.
Et deux, le fait de l'offrir en tout électrique, je pense que ça, il y a une partie de la population qui attend un modèle comme celui-là.
Exact. Et là, tout ça mis ensemble, surtout vu son prix, en fait, ça va être un véhicule qui risque d'être très en demande. Donc, prix de détail de 65 000 $, je pense exactement, c'est comme 64 495, là, mais bon, en dollars canadiens, donc c'est pas un prix américain, c'est vraiment pour le marché canadien. Le XC40 promet 335 km d'autonomie électrique et une recharge rapide qui récupère environ 80% de sa charge en 40 minutes, ce qui sont deux détails non négligeables. 335 km, c'est peut-être un peu juste, mais c'est très suffisant pour la plupart des usages. Donc, vu le prix, ça devrait être...
Disons que c'est acceptable.
Parce qu'un VUS 100% électrique qui fait mieux que ça, c'est 2 fois le prix.
Là, évidemment, à 65 000 $, il n'y a pas de rabais qui s'applique à ça parce qu'on est au-dessus du prix habituellement qui est admissible. Donc,
exact.
Les gens, c'est vraiment le 65 000 qu'on paye. Là.
Mais tu vois, le XC90 dont on va parler tout à l'heure, qui est branchable, est 75 000 en montant. Donc, c'est des véhicules qui visent une clientèle qui a les moyens de se l'offrir.
Voilà.
Donc, évidemment, il y a ça. L'autre nouvelle, c'est que Volvo Canada et Volvo USA s'allient au réseau de bornes publiques ChargePoint, qui est un fabricant californien de bornes, qui possède aussi un réseau public de 115 000 bornes en Amérique du Nord, des bornes de recharge auxquelles on peut se brancher.
115 000, OK, c'est
en s'abonnant, finalement. Les clients de Volvo, et ça, c'est une partie relativement intéressante, c'est que les clients de Volvo qui achètent un véhicule branchable chez Volvo pourront acheter une borne de la marque ChargePoint. Et je pense que le modèle exact s'appelle HomeFlex, qui est un modèle qui est relativement abordable et qui fait du bon travail. Détail intéressant d'ailleurs à propos de cette borne-là, c'est qu'elle est dotée d'une connexion Wi-Fi qui permet de surveiller à distance comment elle fonctionne, comment se passe la recharge et qui offre aussi la possibilité de la partager avec d'autres propriétaires de véhicules électriques.
OK.
Un peu comme un Airbnb de sa borne de recharge.
Tu loues ta borne.
Fait que les gens qui veulent peuvent, les gens qui veulent pas, ils n'ont pas besoin, mais c'est quelque chose d'assez quand même original. Puis honnêtement, quand on achète une voiture électrique chez un concessionnaire, c'est bien qu'ils offrent cette option-là d'installer une borne à la maison, parce que c'est là que la recharge se passe dans comme 90 % des cas.
Oh, absolument. C'est à peu près tout ce... En tout cas, la grande majorité. Côté Ford maintenant, pour ceux qui doutaient peut-être de la popularité du modèle Bronco, Ford a confirmé que 190 000 consommateurs ont déjà manifesté leur intention de faire l'acquisition d'un nouveau Bronco, parce que c'est le nombre de réservations qu'on a déjà sur le modèle. Encore mieux, la compagnie a également fourni des détails sur les futurs acheteurs. En fait, ce qu'on dit, c'est que il y a 26 % des réservations qui se sont faites via différents sites. 20 % des consommateurs sont passés par des sites de concessionnaires. Et on dit que c'est surtout les déclinaisons les plus chères que les gens ont adaptées à la faveur de 54 % ou à peu près de ce qui reste pour les Outer Banks, les First Edition, là, les versions. Et là, on parle du Bronco pour le 2022 et non le Bronco Sport, à ne pas confondre, parce que Bronco Sport s'en vient là. Mm-hmm. En fait, les premiers modèles ont déjà été montrés. En passant, les modèles canadiens du Bronco Sport sont à la veille d'être fabriqués. Donc, il n'y en a pas encore en sol canadien. On les attend avant la fin de l'année. Donc, on va avoir ces modèles-là qui vont arriver bientôt. Mais ça risque d'être un assez bon modèle du côté des ventes. Tu avais une autre nouvelle, toi, qui concerne...
James Bond.
Aston Martin, puis je vais compléter là-dessus. Mais effectivement,
oui.
Parce qu'on le sait depuis quelques années... depuis 2013, Aston Martin est associé avec Daimler, Mercedes-Benz, qui fournit, entre autres, le moteur V8 4 litres qu'on retrouve dans la DB11, la Vantage, et là, maintenant, la DBX.
Exactement.
Mais on va pousser ça un peu plus loin. Là.
Exact. Et évidemment, on ne sait pas ce que James Bond peut bien penser de cette nouvelle-là, mais écoute, l'iconique marque de voiture britannique, pour l'appeler comme ça, devient encore un peu plus allemande. Mercedes a annoncé qu'elle haussait jusqu'à 20 % sa participation dans Aston Martin. Un geste qui va encore une fois alimenter les rumeurs qui veulent que Daimler pourrait finir par carrément racheter la marque anglaise.
Ouais. En fait, ce qu'on a dit dans le communiqué, c'est que on va avoir là 20 % avec ce qu'on a acheté. On avait 2,6 %. C'est quand même un bond en avant important.
Oui,
ça va permettre de partager un peu plus de technologie.
Exactement. Aston Martin pourra en fait avoir accès aux technologies, aux motorisations hybrides et électriques du groupe allemand, parce que eux, évidemment, ils investissent des dizaines de milliards dans ce virage-là.
Exact.
Aston Martin n'avait pas les moyens de le faire.
C'est clair.
On se comprend. Cela dit. On dit, bon, un moteur allemand dans une voiture anglaise, les clients d'Aston Martin risquent de pas trop voir la différence. Semble-t-il que rien ne ressemble plus à un moteur électrique qu'un autre moteur électrique.
Oui, surtout dans les moteurs électriques. Parce que, bon, on peut noter des sons.
On peut trafiquer, en fait, le bruit que ça fait.
Exact.
Je pense qu'Audi le fait déjà sur certains véhicules.
Audi le fait déjà via le système de son du véhicule.
Exact.
Et Audi n'est pas le seul. BMW le fait. Il y a plusieurs compagnies pour améliorer un peu l'expérience auditive. Mais on dit, bon, un V10, par exemple, chez Lamborghini, c'est inimitable.
Exact.
Ça a un son très particulier. Mais un moteur électrique, ça fait pas de son.
Exactement.
Alors, même si on met le mot Daimler de long en large en dessous d'Aston Martin, si le véhicule va bien, je pense entre autres au Rapide, Aston Martin Rapide,
exact,
qui est censé arriver l'an prochain comme véhicule 100% électrique, ben il y a fort à parier que c'est les moteurs qu'on retrouve dans les EQ chez Mercedes qui vont se trouver là.
Voilà. Puis je sais pas, probablement qu'Aston Martin fera pas comme Porsche et écrira pas turbo sur un moteur électrique. Ce qui serait, tu sais, un peu bizarre. Mais quand même, chez Aston Martin, on prévoit que d'ici 2022, on va avoir les premiers modèles en vente et que ça va composer environ 30%. Ah, c'est drôle, mon... Siri vient de se réveiller.
Oh, la tablette vous
Siri
parle.
Siri a un Aston Martin, exactement. chez Aston Martin, on pense qu'environ 30% des ventes de véhicules d'ici 2025 vont être soit électriques, soit branchables. Donc, c'est quand même un virage qui s'amorce aussi chez Aston Martin.
Évidemment, les gens qui connaissent un peu Aston Martin, qui suivent le dossier, savent que Lawrence Strode a acheté 16,7% de la compagnie avec un groupe.
Mm-hmm.
316 millions de dollars qu'on avait investis. Et ben là, il a mis sa concession Ferrari à vendre. Parce que on peut pas être... en tout cas, c'est difficile d'être chez deux constructeurs de façon aussi évidente.
Mm-hmm.
Et je vais parler au conditionnel, mais c'est le groupe Holland Automotive à Montréal avec Gad Bitton là, qui est derrière tout ça, qui a acheté Maserati d'ailleurs l'année passée, mm-hmm. qui appartenait aussi
le concessionnaire
montréalais Maserati. Et là, en tout cas, selon ce qu'on a d'informations, l'entente serait faite et c'est le groupe Holland qui va ramasser, en passant, la concession Ferrari. Et M. Stroll va se consacrer entièrement à Aston Martin.
Ben oui.
Alors voilà, ça complète la nouvelle. Ah oui, autre information intéressante. Kia a dévoilé des plans pour ses véhicules électriques dans les 5 prochaines années.
Okay.
Ça s'est fait cette semaine. En fait, c'est le grand patron de Kia qui a dévoilé un plan de 25 milliards de dollars visant à électrifier une partie de la gamme des produits d'ici 2025. Et on dit que c'est en fait la nouvelle que moi j'ai trouvée, se trouvait du côté d'Automotive News. On appelle ça le plan S que Kia vise à introduire 11 modèles d'ici 2025, partiellement ou totalement électriques. Ça va représenter 6,6% des parts de marché mondial des véhicules à ce moment-là. Puis on a vu cette annonce-là chez d'autres constructeurs. Là,
tout le monde fait la même chose, ben oui.
Bon, voilà. Alors, faut pas, je veux dire, oui, OK, on en prend note, mais on va pas mal dans le même sens que tout le monde. Kia dit qu'ils veulent vendre 500 000 de véhicules électriques d'ici 2026. Donc, c'est dans 5 ans, mettons, là, qu'on sont pas ouais. mal sur la fin de l'année. Et on vise d'ici 2029 que le quart de toutes les ventes de Kia soit des véhicules 100% électriques.
Le donc, plan S.
Oui, le plan S.
Ça, c'est
oui,
quand le plan A et le plan B ne fonctionnent pas, et ainsi
on
de suite.
On est rendu loin. En fait, à considérer tout ce qu'ils ont refait depuis un bout de temps, je pense qu'on serait déjà dans le AB ou dans le C.
le double lettre.
La double lettre, peut-être le triple lettre. Mais ça, ça a été annoncé du côté de Kia. Et rapidement, on a aussi annoncé cette semaine, en fait, les 40 ans du système Quattro chez Audi.
Mm-hmm.
Système, les gens qui suivent le monde du rallye, c'est un modèle Volkswagen, la Iltis, qui a été, je dirais, le véhicule instigateur du système Quattro, parce que c'est à partir de ce véhicule-là, qui est un tout-terrain, on a pris le rouage intégral qu'on a littéralement adapté sur des voitures. On a lancé ça en rallye, imaginez, dans une époque où tous les véhicules étaient des propulsions.
Ouais.
On est arrivé avec un 4 roues motrices rudimentaire, là, disons-le, mais ça a révolutionné le rallye. Là, on s'est mis à tout gagner. En fait, Audi a tellement gagné à une certaine époque qu'on a changé les règlements parce que ça n'avait plus de bon sens. Là, il y avait une domination hors de l'ordinaire.
Outrancière.
Voilà. Mais on a tranquillement amené ces modèles-là dans des véhicules de production qui étaient les fameux Quattro, le système Quattro, qui était un Quattro mécanique avec le système Torsen où il y avait un 4 roues motrices permanent. Après ça, on a eu des moteurs transversaux où on a amené le système Aldex où tu avais un système qui était réactif. Il y avait une précharge aux roues arrière. Et là, on a le système Ultra en ce moment. Et là, ce qu'on expliquait dans un vidéo qu'on a eu cette semaine, c'est que là, on va aller tranquillement vers des modèles électrique. On va amener le Quattro en mode électrique.
Mm-hmm.
Et on a développé un système qui est à l'arrière, indépendant par roue. Donc, pour être capable de jouer sur la adhérence qu'on va donner selon la roue à l'arrière, c'est pas encore à l'avant, mais sans nous le dire, on a dit qu'on travaillait pour le faire aussi là. Donc, pour amener un système qui serait aussi efficace sur des véhicules électriques qu'il l'a été sur des véhicules avec moteur à explosion. Alors voilà, ça termine notre petit bloc de nouvelles pour cette semaine. On va à la pause et on revient avec Robert Poitier.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charest.
Alors, on est de retour à l'émission Ça tient la route. Je vous rappelle que la balado est disponible dans différents répertoires comme Apple, Google, Spotify et sur le site du 98.5fm.ca dans la section balado le jeudi habituellement là, dans la semaine. On est là. Je vous rappelle que si vous avez des questions, on a aussi une adresse balado avec un S à commercial 98.5fm.ca. fm.ca. Voilà. Alors, notre invité aujourd'hui a été ministre des Transports. Il a même travaillé au 98.5 pendant plusieurs années. On se connaît de cette époque-là. Il est aujourd'hui président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. C'est Robert Poitier. Monsieur Poitier, bonjour.
Hey, bonjour à vous deux.
Merci d'être là, c'est très apprécié. Évidemment, on se prépare à 28 autres jours de confinement. François Legault l'a annoncé. Ça touche évidemment à tous les commerces. On le sait que dans l'automobile, on a, dans bien des cas, connu quelques très bons mois d'été. J'ai parlé à plusieurs concessionnaires qui m'ont dit que ça a bien été. Sauf que là, à un moment donné, le temps qu'on avait à rattraper sera rattrapé. On se demande un peu comment ça va se passer si on regarde l'horizon des 6 prochains mois à la prochaine année.
Ben, écoutez, vous avez raison. Bon, dans un premier temps, comme vous dites, les prochains 28 jours, sûrement, puis peut-être un peu plus. Et dans un deuxième temps, les gens, les concessionnaires, ont été bien honnêtes de vous dire que c'est sûr que les deux derniers mois, si on regarde ceux-là, ont été bien. Pourquoi ils ont été bien? Parce que pendant les deux autres mois et demi précédents, on était fermé au niveau des ventes.
Exact.
Alors, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que les gens ont magasiné, évidemment, sur les sites des concessionnaires, sont allés sur les plateformes, se sont informés. Alors, ils ont pris le temps et on l'a constaté parce que dès la réouverture des ventes, les gens qui arrivaient, les consommateurs, savaient davantage ce qu'ils voulaient, connaissaient davantage le produit parce qu'il y avait eu le temps, disons ça comme ça, d'aller voir le véhicule qu'ils convoitaient, regarder les options, avoir une idée quand même assez juste des prix. Et aussi également, une autre chose qui a fait bouger les ventes, c'est que les constructeurs, les concessionnaires, avaient des inventaires importants. Là. Je pense dans la région de Québec, ici, un concessionnaire, en fait, qui a 5 concessions, il avait 30 millions de véhicules automobiles stationnés. Là. Je
comprends que les constructeurs... 30 millions en valeur, évidemment, et non en valeur, quantité.
Oui. Beaucoup de véhicules, oui.
Non, en valeur, oui, effectivement. 30 millions en valeur. Alors oui, c'est sûr que les constructeurs donnent un coup de main là-dessus, là, mais il y a un impact financier pour le concessionnaire. Puis l'autre chose, ben le constructeur, lui, il y a des. Je comprends que ça va un peu moins vite, là, mais les 2021 sortent, ils sont sortis, là.
Ils sont sortis, effectivement.
Oui, ils sont sortis. Donc, il fallait faire sortir ces inventaires-là. Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, des taux d'intérêt à 0%, vous en avez vu beaucoup. Ouais. Des termes à 84 mois, mais aussi des garanties de 10 ans. Je pense à Mitsubishi, vous avez 10 ans de garantie. Là, le risque, là, il n'est pas élevé. Là. Vous avez 0% d'intérêt, 84 mois, 10 ans de garantie sur les pièces moteurs importantes. Donc, à partir de là, ben, le consommateur a bougé. Donc, oui, les derniers mois étaient bons, mais au bout de l'année, là, je suis obligé de vous dire qu'on sera actuellement entre 25 et 28% de baisse des ventes globales.
OK. OK. Et là, est-ce qu'on parle à l'échelle canadienne ou québécoise?
Québécoise.
OK.
Québécoise, oui. Moi, je prends nos chiffres du Québec. Et donc, on a bien fait les derniers mois parce que, bêtement, les autres mois n'avaient pas fonctionné, on était fermés. Alors ça, c'est la résultante. Maintenant, sur le volet des consommateurs, ça a été intéressant parce que, comme je disais tantôt, les plans des constructeurs ont été avantageux pour le consommateur. Ça a permis de sortir les inventaires qui étaient là. Il y a encore de l'inventaire. Dans certains modèles, c'est vrai qu'il en manque quelques-uns, mais je vous dirais la majorité sont à peu près à 50% au taux d'inventaire. Donc, c'est sûr que, contrairement à un début d'ouverture des concessions, vous voyez la couleur, le modèle, les options, il était là. Là.
Ouais, là alors, c'est ça. Exact. Donc, là, pour le moment, il reste un rouge ou un blanc, puis on n'en a pas d'autres.
Ben, c'est-à-dire que dans certains modèles, oui, c'est vrai. Dans d'autres, non. Dans d'autres, non. Je pense, puis écoutez, moi, je les aime toutes, là, ou à peu près, comprenez bien ça. Mais j'ai une amie qui voulait acheter un Toyota RAV4. J'ai dit, ben, il reste peut-être quelques 20-20. Donc, elle est allée visiter des concessions. Ben, en fait, elle a acheté un 20-21 qui était là.
OK. Ah parce bon? Que les 20, ça dépend du modèle que tu veux. Si on veut un hybride, le RAV4 Prime, il y a un an et demi d'attente. Non, là, c'est clair.
Ouais, elle n'avait pas pris ça.
Exact.
C'est l'autre modèle. Donc, le 2021 est déjà là. Donc, ce que ça dit, c'est que, vous savez, c'est très robotisé, l'industrie. Oui, il y a eu des retards. Il y a eu des fermetures de constructeurs. Maintenant, quand ça reprend, c'est un peu différent de d'autres entreprises. je pense à un email, où là, t'es collé un sur l'autre, là, t'es obligé de te réorganiser au complet. La robotique fait d'une certaine façon que la robotique n'attrape pas le COVID, là. Mais il y a eu des retards quand même. Mais là, je vous dirais que je pensais que les 21 arriveraient beaucoup plus tard. Mais actuellement, ils sont là pour plusieurs constructeurs.
Ouais, la cadence a repris assez rapidement au niveau de la production. Il y a des habitudes qui ont changé beaucoup dans le magasinage en général pendant la pandémie. Évidemment, tout le monde s'est précipité sur Internet. Là, on a beaucoup parlé du virage numérique. Je pense qu'il y a même des constructeurs. Je pense Toyota, entre autres, a même élargi ses options de magasinage et d'achat en ligne directement. Comment vous adaptez au niveau des concessionnaires par rapport à ça? Est-ce qu'il est plus facile pour le consommateur de faire le gros du magasinage sur Internet, sur les sites des commerçants, puis ainsi de suite? Ou est-ce que c'est encore un peu la espèce de zone grise que c'était là, entre les constructeurs et les concessionnaires?
Ben, écoutez, je pense qu'il y a un partage, juste un partage là, de, je vous dirais, de l'évolution technologique qui est nécessaire, puis qui est utile pour le consommateur aussi. Parce que le consommateur apprend davantage, il fait un choix selon ses besoins, puis il est capable de comparer rapidement d'une plateforme à une autre. Maintenant, essayer un véhicule, moi j'ai déjà aimé beaucoup des véhicules, puis rouler 15 minutes avec, puis dire non, c'est pas pour moi, ça me convient pas. Alors, c'est sûr que la relation, qui est souvent émotive, mais qui est aussi vraiment nécessaire et essentielle, d'aller voir le véhicule, de s'asseoir dedans, de tester la conduite, ça, c'est le rôle du concessionnaire et c'est lui qui permet ça. Alors, à partir de là, je pense que avec les constructeurs, nous, on travaille beaucoup avec l'Office de la protection du consommateur actuellement parce que le Québec, parfois, on est en retard sur certaines choses. Vous savez, vous pouvez acheter une maison d'un million ou deux actuellement puis tout faire ça en ligne avec une e-signature, une signature électronique. Mm-hmm. Vous pouvez pas acheter un auto. Vous pouvez pas acheter un auto 100% en ligne. Alors, faire un transfert, le payer 100% en ligne, actuellement, c'est pas légal au Québec. Donc, avec la protection du consommateur, l'Office de protection, on a eu des discussions vraiment positives puis ouvertes et ça devrait se traduire par évidemment un projet de loi qui va permettre aux concessionnaires, évidemment avec les permis de vente de concessionnaires, de pouvoir davantage faire la vente en ligne, mais aussi la prise de possession aux concessionnaires. Donc ça, on va modifier ça. Il y a eu signature aussi, donc des signatures électroniques de transfert d'argent qui va venir légaliser la transaction. Donc ça, on parle actuellement avec l'Office de la protection du consommateur. C'est le ministre de la Justice qui devrait emmener un projet de loi comme celui-là à l'Assemblée nationale pour justement arriver aux années 2020 et être capable de fonctionner de cette façon-là.
Ouais, c'est intéressant. Évidemment, là, on peut, malgré les mesures sanitaires en place, on peut aller chez un concessionnaire magasiner une voiture. J'imagine que la façon de faire a changé beaucoup. Comment on magasine une voiture cet automne?
Ben, écoutez, ça... quand on avait été fermé, on était une des rares industries où on avait scindé nos services. C'est-à-dire qu'on disait, ben pour les services essentiels, ben vous pouvez faire l'entretien des véhicules. On a réussi à leur expliquer que, vous savez, vous, là, votre père, votre mère plus âgée, vous allez aller porter les médicaments, aller porter la nourriture, vous allez faire des commissions pour eux. Puis votre véhicule fait défaut, vous n'êtes pas un policier, vous n'êtes pas un pompier, vous n'êtes pas un mécanicien, vous n'êtes pas un docteur.
Vous avez quand même besoin de votre auto.
Ouais, ouais.
Ben voilà, alors nous, on l'expliquait en disant, l'automobile, c'est un besoin essentiel. Et je voyais l'autre jour, et je me choque pas souvent, mais des fois, je viens impatient parce que l'article disait, l'automobile, un mal nécessaire. Là, je m'excuse, c'est un besoin essentiel et on l'a vu plus que jamais. En milieu urbain, là, j'ai participé directement. On se contre ça un jour, là, au REM de Montréal. Parce que, ben, je dis Montréal, évidemment, de la grande région métropolitaine.
Ouais, ouais,
moi, le transport collectif, là, en milieu urbain, là, je le salue, puis je le souhaite. Les pistes cyclables, là, je pense que c'est important. Je suis allé à Copenhague, et vous regardez dans ces villes-là, qui n'ont pas l'hiver qu'on a, mais quand même, il y a quelque chose à faire. Maintenant, il faut pas le faire au détriment un de l'autre, là. Alors, à partir de là, moi, les besoins essentiels, c'est pas vrai que quand vous restez à Trois-Rivières, à Repentigny, vous êtes dans l'Ouest Island, à Vaudreuil, que vous pouvez utiliser rapidement, facilement, à toute heure du jour, le transport collectif. Alors, la spécificité du Québec, disons-le, je parle pas des îles de la Madeleine, là, je parle de Baie-Comeau, de Rouyn-Noranda, je parle de Val-d'Or, je parle de Sherbrooke, de l'Estrie, la Mauricie. Les véhicules automobiles ont évolué avec la société. C'est plus vrai qu'ils consomment ce qu'ils consommaient, qu'ils émettent des gaz à effet de serre comme c'était il y a 10 ans. Puis il y a eu pire que ça. J'ai été gentil, là, mais il y a une dame d'Équiterre qui a dit, là, c'est terrible parce que les gens jettent plus de VUS, puis ça tue plus de monde. Moi, je sais pas quel âge qu'elle avait, là. Mais dans les années 80, là, dans les années 80, on avait 3 millions de véhicules, le parc automobile au Québec. Et chaque année, on avait 2300 morts. Chaque année. Aujourd'hui, on a doublé le parc automobile. On a 6 millions de véhicules. On a moins que 400 morts. Comprenez qu'un, c'est un trou, là. Mais on a au moins 2000 morts de moins. Elle était où, là, cette personne-là?
Elle était certainement au coin d'une rue parce que c'est un autre enjeu, mais la sécurité routière au niveau des piétons et des cyclistes, ça, c'est un problème qui n'a pas encore été réglé. Ouais. Mais effectivement, il faut faire de l'espace multimodal peut-être dans les milieux où il y a une certaine densité.
Oui, mais les autos intelligentes, mais je vous le dis, là, on va baisser en bas du 400 à cause de l'intelligence des voitures.
Ben, c'est le but visé, là. L'autonomie vise à rendre, Volvo a même fait des promesses de dire qu'il n'y aura plus jamais personne qui vont se blesser ou se tuer.
Le zéro accident est très fort.
On vise à ça et c'est correct, mais c'est aussi utopique de penser qu'il n'y aura plus de voitures sur la route demain matin.
Il faut
l'organiser en conséquence, effectivement, mais je pense que l'auto aura toujours sa place et il s'agit de trouver la bonne.
Ça n'avait pas évolué, je serais d'accord avec ces gens-là, là. Mais c'est pas ça, là. Vous avez des Cadillac là, qui ont des 6 ou des 8 cylindres, puis sur l'autoroute, vous tombez sur un cylindre. T'sais, vous avez le mode économie sur les véhicules. Vous avez, aujourd'hui, on appelle ça un VUS, un Kona. T'sais, j'ai un peu de
En fait, c'est des voitures qui sont construites avec un châssis d'utilitaire, là, mais qui n'ont rien à voir avec un utilitaire. Il y a une grande partie du parc automobile qui est là, effectivement.
Ben, c'est ça. Je trouve que des fois, c'est n'importe quoi. Donc, ramenons les choses à sa juste valeur. Puis c'est un besoin essentiel. Savez-vous quoi? On l'a vu plus que jamais. La semaine passée, là, Illumi, je pense que le spectacle du cycle, ben pas du cycle du soleil, mais celui qui a travaillé, évidemment, toutes les lumières que vous avez
Oui, c'est Cavalia, les organisateurs
Cavalia.
De Cavalia. Oui.
Bon, ben, vous allez aller en voiture avec votre famille, puis vous restez dans votre voiture, puis vous traversez ça doucement. Ça fait-tu du bien un petit peu à la tête, ça?
Notre collègue Isabelle Maréchal en a parlé à son émission, était allée le voir. J'ai écouté cette émission-là, puis elle a dit qu'effectivement, on a très peu de sorties en famille, puis dans l'auto, ben c'est le bon endroit pour être confiné. On est en bulle, effectivement.
C'est ça. Alors, moi là, c'est un besoin essentiel. C'est pas un mal nécessaire. Ça va faire, là.
Ben, on est de votre avis, Monsieur Poitier. Puis, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. On va suivre ça, puis il va sûrement avoir des développements et on se reparlera à ce moment-là.
Ouais, puis peut-être en terminant, je vous le dis, là, il faut absolument appeler au concessionnaire pour ces pneus d'hiver. Il y a eu beaucoup de téléphones de fête, mais cette année, on est encore au 1er décembre, là.
C'est vrai.
Il faut absolument le faire. Là, on a eu un petit peu de neige pour se réveiller, là. À Québec, il y en a du blanc, là.
Il y a un petit peu de blanc qui s'est promené. On en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, mais le rappel est jamais mauvais parce que si vous attendez la première tempête, il va y avoir 25 personnes devant vous pour changer vos pneus.
Ouais, et contrairement au printemps, la loi n'obligeait pas de mettre vos pneus d'été, mais au 1er décembre, elle vous oblige à mettre vos pneus d'hiver, par exemple.
Alors, il vous reste à peu près un mois. Pensez-y bien.
Exact.
Merci beaucoup, Robert. Robert Poitier, qui est président directeur général de la Corporation des concessionnaire automobile du Québec. Alors nous, on va à la pause et après, on parle essai routier.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est déjà notre dernier segment. Ça va vite. Tabarnouche que ça va vite. Alain, on a parlé à l'introduction de l'émission. Oui. T'as essayé cette semaine le Volvo XC90 Recharge. Explique-nous c'est quoi, là, pour les gens qui ne savent pas. C'est quoi un Recharge par rapport au XC90 régulier, mettons?
Bon, ben, écoute, le XC90, c'est un gros VUS. C'est le gros VUS de Volvo.
C'est le gros VUS.
La version Recharge, c'est une version branchable, donc hybride, partiellement électrifié, qui fait à peu près, écoute, dans le meilleur des cas, 30 km électriques avant de passer en mode essence.
C'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup, mais les gens en parlent beaucoup parce que le véhicule est beau. Puis, il est séduisant pour bien des acheteurs dans ce créneau-là, le DVUS grand format de luxe.
Ça coûte combien, ça?
Si tu promets de pas trop en parler aux gens, c'est 75 000 $ pour partir. Fait que c'est pas exactement le véhicule le plus abordable, mais tu sais, quand on pense VUS plus ou moins électrifié, là, parce qu'évidemment, ça dépend si on le veut au complet ou pas, 75 000, c'est comme le prix de démarrage pour peu importe le modèle.
C'est pas mal, surtout que, bon, dans cette catégorie-là, si on compare à du Audi, du BMW, du Mercedes, du Lexus, bon, on est pas mal tous des mêmes prix, là, si on va se promener là.
On est tous à peu près au même stade d'électrification, c'est des plug-in, comme on dit en bon français, puis c'est évidemment pour réagir à Tesla qui a un Model X qui coûte 100 quelques mille en partant.
Exact. Donc, c'est... personne offre beaucoup d'autonomie en passant. C'est exactement. Pas unique à Volvo là. On n'a pas plus chez BMW, on n'a pas plus chez Audi non plus là.
Non, mais comme tout le monde a un œil sur. En fait, Volvo sont plus ou moins dans la première vague de VUS électrique avec ce modèle là. Alors la plupart des gens imaginent que c'est un VUS hybride branchable qui devrait être un des véhicules les plus attrayants dans la catégorie. Tu sais, mm-hmm. Les gens qui se disent j'aimerais avoir un Tesla mais j'ai pas les moyens. Vont regarder Volvo.
OK. Là, est-ce qu'on a gardé le confort qu'on retrouve dans les autres XC90?
Écoute, le véhicule est vraiment, oui, en gros. Au volant, là, il est vraiment, c'est un bon véhicule. Bon, il est un peu lourd, on s'entend, parce qu'on ajoute en plus des batteries et tout le reste, mais il se déplace relativement bien. L'ergonomie est bonne, on voit bien partout. On a 5 places minimum assises. Il y a une banquette d'urgence, j'appelle ça une banquette d'urgence à l'arrière si on veut asseoir 2 personnes de plus, mais. Faites pas ça sur le long terme, c'est pas très confortable. Mais dans l'ensemble, c'est confortable. On a droit aussi à un régulateur de vitesse évoluée là, que certaines personnes pourraient appeler une conduite semi-autonome, mais c'est pas le cas. Faut quand même garder la main sur le volant et ça décroche à tout moment. Donc c'est pas loin d'être dangereux et même plus.
J'avoue que ça me fatigue.
Faut pas perdre
honnêtement la route des là, yeux. Ça me fatigue parce que ça fonctionne bien dans des conditions que moi je qualifie de laboratoire. C'est-à-dire exact. Que de la minute qu'on trouve une autoroute régulière comme chez nous, s'il y a une voiture en avant de toi qui vient te couper vis-à-vis une personne que tu suis parce que la distance est prédéterminée, voilà. on peut la changer là au volant. Mais de la minute que on vient obstruer le moins que ce soit la conduite qui est supposée être idéale, mm-hmm. Là ça donne des coups, ça freine pour rien, ça tasse
ou ça décroche.
Et
là, faut être
exact.
Présent puis faut réagir. Ah, ça oui. C'est un problème. Une autre affaire, c'est que bon, évidemment, quand on prend place à bord, la première chose qu'on remarque, c'est le superbe écran multimédia de la console centrale,
qui est
énorme. Écoute, c'est comme avoir un gros iPad dans son tableau de bord.
Oh, oui.
Et la logique est évidente. On veut évidemment avoir l'air très high-tech chez Volvo, donc on intègre un appareil comme ça qui ressemble justement à une tablette. Malheureusement, les menus sont mal pensés.
Beaucoup de sous-menus. Ben, ça me tombe ses nerfs.
C'est qu'il y a des menus déroulants, il y a des menus qui surgissent, il y a des menus qui c'est une grosse icône, des petites icônes. En tout cas, c'est point de vue ergonomie, point de vue interface, c'est vraiment
c'est compliqué pour rien. Ça m'a pris ma semaine d'essai avant de commencer à comprendre comment ça fonctionnait.
Exact. On finit par s'habituer, mais c'est ça prend trop de temps. Je vais résumer le véhicule juste en 2 statistiques, puis vous allez comprendre c'est quoi, ça va vous donner une idée si vous le voulez ou pas, si jamais ça vous intéresse. Première statistique, son autonomie électrique, on le disait tantôt, au plus de 30 km, plus raisonnablement, mettons 20 à 24 km, c'est trop peu. Il y a des modèles déjà qui sont pas des modèles de luxe, là, qui font déjà 60, le RAV4 plug-in est un exemple.
Exact.
Qui font une soixantaine de kilomètres.
60, même 70 dans des bonnes conditions.
Et pour le dire encore une fois en bon français, le sweet spot, donc la cible à avoir, c'est vraiment 50 à 60 km parce que c'est là où 80% des gens environ sont couverts en termes de conduite au quotidien. On revient à la maison le soir, on se branche et on repart le lendemain et on consomme à peu près pas d'essence. Ce qui nous mène à la deuxième statistique. Sa consommation d'essence moyenne est de 8 litres au 100 km. Pour un véhicule plug-in, c'est au moins 2 fois trop parce que on regarde les autres véhicules branchables, que ce soit un VUS ou une berline, c'est généralement entre 2 et 3 litres au 100, ce qui est tout à fait, je veux dire, c'est excellent.
Ouais.
Mais à 8 litres au 100, c'est aussi bien d'acheter un VUS à essence un peu plus modeste.
Rendu là, acheter un T6 qui va vous coûter moins cher, qui n'a pas d'autonomie,
exact.
Mais vous n'aurez pas une. En tout cas, la consommation sera pas très différente de ce que vous allez avoir avec ça.
Exact. Puis de toute façon, vous pouvez sauver des sous sur un véhicule qui est peut-être un peu moins cher, un peu moins sophistiqué, puis arriver à la fin puis avoir économisé de l'argent quand même et de pas avoir été déçu point de vue confort parce qu'il y a d'autres modèles qui sont intéressants.
Je te demande ton verdict. Là,
longue histoire courte. Écoute, c'était une bonne idée ce véhicule-là à l'origine, mais là clairement le modèle était soufflé vu ce qui se fait ailleurs. Donc malheureusement,
besoin de revoir un peu tout ça pour le rendre plus compétitif.
Je pense qu'on serait dû pour recharger le XC90 recharge. C'est une bonne finale, exact.
C'est bon. Écoute, moi de mon côté, j'ai été plus modeste. On a essayé. En fait, on devait avoir à Montréal dans la semaine du 21 octobre un essai. En bonne et due forme, avec des journalistes rassemblés à un endroit. Mais là,
c'est un modèle très attendu, d'ailleurs.
C'est un modèle très attendu. En fait, c'est le modèle le plus vendu chez Nissan, c'est le Rogue.
Ah oui?
Le Rogue, à lui seul, représente 30% des ventes de la marque au Canada.
Wow.
C'est pas rien. Ça a commencé en 2007, les premiers Rogue. Et on était essoufflé là du côté du jour. On les a vendus, je ne dis pas à perte, mais on les a vendus à rabais pendant plusieurs années.
Mais la génération, cette génération-là précédente, là, ouais. C'était un, dès le jour 1, c'était un bon modèle qui a bien vieilli malgré tout. Là.
Qui a bien vieilli, et c'est surtout que c'est un format pratique mm-hmm. qui va plaire aux familles puis qui est à un prix réaliste. Tiens, on commence, quand tu commences un véhicule dans les 26-27 000, voilà. Là, tu atteins des budgets que les gens peuvent se permettre. Là, on est arrivé en 2021, on a tout recommencé. Là. Le nom Rogue est encore là, mais c'est une nouvelle plateforme.
Ben, je veux dire, visuellement, ça pourrait être un Hyundai, là.
Visuellement, ça pourrait être plein d'affaires.
Ouais,
visuellement, on a emprunté, malheureusement, des programmes de dessin de véhicules sur la planète, il en existe deux ou trois. Les CAD, là, pour
les logiciels d'aide, ouais, c'est
Les logiciels d'aide, ouais. Les CAD, là, on travaille presque tout avec la même chose, puis on arrive malheureusement au bout de piste avec des résultats qui se ressemblent. Oui. Cela dit, c'est une nouvelle plateforme qui ne sert pas à d'autres modèles pour le moment. Le Rogue est le premier qui a ça. Ça va aller ailleurs, c'est sûr. Il y a pas encore. Nissan nous ont dit on n'a même pas donné de nom à la plateforme encore.
Okay.
Alors tellement elle est récente.
C'est rare quand même.
C'est assez rare. D'habituellement, on part d'une base, on lui donne un nom puis on le met sur les modèles. Là, c'est tout nouveau. C'est un moteur 4 cylindres 2.5 litres. Donc ça ne change pas. Mais c'est pas le même 2.5 litres qu'il y avait dans la précédente génération.
Okay.
Il y a 181 chevaux, 181 livres pieds de couple. Donc, on a suffisamment de puissance. On a encore la boîte CVT, si on s'en sortira pas.
Est-ce que c'est une nouvelle boîte CVT ou c'est la même?
C'est une nouvelle boîte CVT.
Ça peut être une bonne nouvelle,
fait, là. Sur laquelle on a travaillé les simulations de rapport ou de changement de vitesse pour que ça soit un peu moins, disons, souffrant pour les tympans.
Linéaire.
Hein, disons ça, oui. Bon, quand vous appuyez à fond sur l'accélérateur, c'est pas encore très glorieux, mais pour faire le travail et pour les gens à qui on s'adresse, ça va être plus que suffisant. Bon, évidemment, les prix vont varier. Le modèle S, qui est toujours le modèle de base, commence à 28 698 $. Et on va jusqu'à 40 000 pour un modèle Platinum. Là, évidemment, nous, on avait mis à l'essai, Nissan nous avait prêté que des modèles Platinum.
Ah oui.
Pour qu'on essaie, bon, des fois j'aime ça, des fois j'aime moins ça, parce que c'est pas le modèle plus populaire. On dit que le SV, là, qui est le modèle milieu mm-hmm. de gamme, on planifie que ça va être plus de 50 % des ventes. Les gens vont aller vers ça parce que tu as quand même un peu d'équipement. Mais tu payes pas le plein prix de ce que tu vas payer pour un Platinum.
Je serais curieux de savoir parce que le gros défaut, ben, le défaut, la particularité de Nissan, c'est que les modèles les moins chers ont une Sono, un système multimédia qui est vraiment mauvais.
Oui.
Est-ce que ça a changé, ça?
On a amélioré, c'est-à-dire que la base est partout. Apple CarPlay, Android Auto vient partout de série, okay. Même
donc on a
les modèles
d'écran,
de base. L'écran va agrandir, okay. C'est-à-dire qu'on a un 7 pouces de base, on a un 12 pouces dans les modèles...
comme un sous-marin, finalement.
Comme les sous-marins, ouais. Effectivement. Dans les modèles Platinum, comme on avait. L'espace est bon. Le modèle, ironiquement, même s'il a l'air plus gros, est un peu plus court que l'ancien, mais on a plus d'espace à l'intérieur.
Mm-hmm.
On va regarder aussi du côté de la génération. Évidemment, on vise toujours les jeunes familles. Le confort. Grosse amélioration à deux endroits à l'intérieur. Confort. Nous, il y avait les fameux sièges Zero Gravity là, qu'on met de l'avant du côté de Nissan. Et dans le modèle Platinum, on les a même à l'arrière, ces sièges-là. Donc, on a l'espace, c'est bon. Les passagers à l'arrière, c'est mieux. C'est pas encore parfait. On a un bon espace de rangement. Les sonorisations, c'est un gros point.
Mm-hmm.
Et on a amélioré suspension, direction. Donc ça, sur la route, la tenue de route est beaucoup améliorée. Donc dans l'ensemble, écoute, mon texte que j'ai mis sur benoitcharrette.com en passant, mm-hmm. il est là si vous voulez aller le voir, c'est de chenille à papillon. Puis ça traduit un peu le modèle, c'est-à-dire que là, je pense
c'est
qu'on arrive à un modèle qui est abouti. Nous, on a fait 7,3 litres au 100 de moyenne lors de notre essai, ce qui est très bon dans cette catégorie-là.
C'est pas mal grâce à une CVT. En
c'est, ben oui, la CVT, en fait, a des défauts, mais elle a l'avantage, effectivement, de donner une consommation qui est très intéressante pour le modèle. Donc, dans l'ensemble, c'est un modèle que je recommande, qui arrive au moment où on se parle chez les concessionnaires, c'est fin octobre, donc c'est les premiers modèles qui arrivent. Et ça nous donnera pas le temps, malheureusement, de parler de mes autres essais Mini et BMW, mais on va se reprendre la semaine prochaine. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Alors, un grand merci, Alain McKenna, de ta présence. Benoît. La semaine prochaine, on va parler de Mini, on va parler de BMW. Puis j'ai d'autres choses, mais je vous garde une petite surprise. Merci à tous. À la prochaine. Bye-bye.
Ce balado C23 vous a été présenté par le 98.5.
C23.